Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec une invitée, Noël Renaud. Bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver, Noël, pour évoquer votre dernier ouvrage. Alors, il est sorti l'an dernier.
Oui.
Il a pour titre Nourrices, nurses et gouvernantes. Vous restez fidèle aux éditions Sutton ?
Oui, absolument.
Alors, Noël Renaud, je vous présente rapidement. Vous êtes né dans la Nièvre, à Monsauge, en 1949. Vous êtes vous-même arrière-petite-fille de nourrice. Vous travaillez sur les nourrices du Morvan depuis maintenant plus de 30 ans.
40 ans.
40 ans.
40 ans.
Et vous avez déjà publié 6 ouvrages. Celui dont nous allons parler aujourd'hui est le 7e. Votre premier ouvrage sur les nourrices du Morvan avait paru en 1995. Il avait pour titre « Les nourrices du Morvan, 10 ans de recherche ». Il y a eu aussi en 2012 un ouvrage sobrement intitulé « Les nourrices » qui a connu un grand succès, déjà chez Sutton, plus de 2000 exemplaires vendus. Alors Noël Renaud, quel a été le déclic ? Parce qu'il y a votre fils qui signe une préface à votre ouvrage, et avec à la fois hommage à ses nourrices et hommage à sa maman adorée.
Oui.
Et vous, Noël, quel a été le déclic pour écrire autant, chercher autant, passer autant d'heures et d'années à travailler sur les nourrices du Morvan ?
Eh bien, le déclic s'est fait tout naturellement. En 1980, j'ai commencé mon arbre généalogique, comme tout le monde. Et puis tout de suite, je suis tombée sur les nourrices de ma famille. Donc, j'ai essayé de retrouver leur chemin, des photos, des documents. Mon arrière-grand-mère, qui était née en 1884, avait été nourrice chez un avocat à Paris. Et puis, elle se transportait dans un château l'été en Auvergne. Et puis, une autre partie aussi dans le Jura. Mais nous n'avions aucune photo de mon arrière-grand-mère, que j'ai bien connue puisqu'elle est décédée, j'avais 21 ans. Je ne m'intéressais pas spécialement aux nourrices à cette époque-là, donc je ne l'ai pas interrogée. Et de toute façon, j'ai su par la suite qu'elle ne voulait pas en parler. Alors, comment retrouver la trace de mon arrière-grand-mère ? Dans quelle famille elle était ? Finalement, c'est une arrière-grand-tante, donc une belle-fille de mon arrière-grand-mère, qui avait gardé un certificat de bon service. Et ce certificat de bon service, elle me l'a donné. Et ce certificat stipulait que Jeanne Partiot, de Monsauge également, était partie 2 ans dans la famille d'Aligny, et qu'elle avait bien soigné les 2 enfants dont elle s'occupait. Et sur ce certificat, il y avait une adresse, donc Montmirey, le village dans le Jura. Donc j'ai écrit au maire de Montmirey en lui demandant s'il y avait toujours des descendants de la famille d'Aligny. Et il m'a répondu que, bien sûr, il y avait des descendants, le château était toujours là. Donc j'ai pris contact avec monsieur d'Aligny et puis on s'est rencontrés, il m'a invité. Et j'ai retrouvé au château la photo de mon arrière-grand-mère. Parce que mon arrière-grand-mère avait détesté cette période. Et quand elle est rentrée, elle avait brûlé tout ce qui la concernait. Donc certificat, sauf celui-là, les photos, etc. Donc c'est monsieur d'Aligny qui m'a fourni la première photo de mon arrière-grand-mère nourrice. Elle est photographiée dans le parc du château. Donc monsieur d'Aligny m'a emmené dans le parc, etc., dans le château. Et finalement, j'ai appris aussi que la mère de mon arrière-grand-mère, ma trisaïeule, 20 ans avant, avait aussi été nourrice. Donc elle, elle était placée chez les Dreux-Brézés. Et alors donc, je travaillais pour moi, pour mon arbre. Et M. Daligny m'a donné l'adresse de la famille Dreux-Brézés, puisqu'ils sont tous un petit peu en famille. Et finalement, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai retrouvé d'autres, des grands-tantes, des arrière-grands-tantes, etc. Et au bout d'un certain moment, je me suis retrouvée avec un tas de documents, des photos superbes, puisqu'on les emmenait chez les grands photographes. Et puis des certificats, des carnets de nourrice, des objets, etc. Et puis donc j'ai fait ce premier livre en 1995.
Est-ce que le sujet des nourrices en 2020 est aujourd'hui complètement épuisé ?
Ah non, 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 non. La semaine dernière, j'en ai retrouvé 6. Donc 6. Alors c'est uniquement le bouche à oreille, le collectage. Donc sur les salons du livre, le bouche à oreille aussi. Quand je vais dans un village où on m'a enseigné une nourrice, souvent, les gens se parlent entre eux, ils me disent « Ah, mais il faut aller chez nos voisins, ils ont aussi eu une nourrice, etc. » Donc, c'est incroyable, incroyable.
Alors, dans l'histoire de France, il y a déjà des nourrices.
Bien sûr.
Y compris auprès de nos reines et de nos rois de France.
Hein, oui.
L'époque gallo-romaine, il y avait déjà,
déjà,
de belles et généreuses nourrices.
Nourrices, et en principe, j'avais... Bon, j'ai pas forcément étudié cette question, mais je sais que les Romains voulaient des nourrices gauloises. Donc, vous voyez qu'on sait qu'on a des textes très anciens qui stipule que le lait de la femme celte est du bon lait. Donc ça ne date pas d'hier.
Alors les reines de France avaient effectivement des nourrices. Par exemple, vous écrivez « Ainsi, Diane de Poitiers choisit des nourrices pour les enfants de Catherine de Médicis. Pour Henri IV, 8 nourrices se sont présentées. Plusieurs nourrices se sont succédées au chevet du petit Louis XIII. Et Louis XIV épuisera 9 nounous. »
Oui. Oui, oui. Et puis récemment, on a aussi Napoléon III qui a eu une nourrice du Morvan. Le fils de Napoléon III, le petit Loulou, alors lui, il avait un bataillon de nourrices à son service puisque l'impératrice Eugénie était très anxieuse. Et si jamais la nourrice en titre qui allaitait le bébé avait eu des problèmes, il y avait un bataillon de nourrices qui était aux Tuileries et qui attendait éventuellement de succéder à la nourrice en titre.
Ce qui est surprenant, dans votre livre, il y a une photographie ancienne prise à Cognac. Il s'agit de la maison de la nourrice de François Ier.
Oui.
Est-ce à dire que, finalement, dans l'histoire, ces cartes postales, on est attaché à la figure de la nourrice ?
Oui, parce que la nourrice n'est pas une domestique particulière, est une domestique particulière, privilégiée. Ça n'est pas la cuisinière, la femme de chambre, etc. Donc la nourrice doit avoir du bon lait, elle se doit uniquement au bébé, donc on ne va pas la contrarier, on va bien la nourrir et on va la choyer pour que son lait ne tarisse pas.
Et alors, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une industrie des nourrices, on reviendra sur cette expression, ce n'est pas un phénomène franco-français, puisque les monarchies européennes, Italie, Espagne, Portugal. Autriche, oui, avaient aussi des nourrices. L'impératrice Sissi...
Ah oui, bien sûr. Donc on recrute dans ces pays-là beaucoup de nourrices. Surtout en Espagne, il y a une région au nord de l'Espagne, la Cantabrie, qui a fourni de nombreuses nourrices qui allaient à la cour d'Espagne.
Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Nourrice, nurse et gouvernante », sous la plume de Noël Renaud, qui est aujourd'hui l'invité de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque une première pause musicale et nous retrouvons notre invité dans une poignée de minutes.
Une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et tente, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère. Tu t'en voudras. Elle me dit t'es trop nul, sors garçon, va taper dans un ballon, tu deviendras populaire. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous sur internet? Ça va pas bien dans ta tête, regarde le temps que tu perds. Elle me dit, pourquoi tu te vins tout le temps? On dirait que t'as 8 ans, c'est pas comme ça que tu vas plaire. Elle me dit, un jour je ne serai plus là.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nourrices, nurses et gouvernantes, c'est le titre du dernier ouvrage de notre invité, Noël Renaud, qui est en cette fin de matinée sur Radio devant notre micro. Rendre hommage à ces femmes et à leur métier. Précédemment, j'ai parlé d'industrie des nourrices. C'est le docteur Monod, je suppose, un docteur
de Monsauge,
parlé d'industrie des nourrices. Alors, doit-on être choqué par cette formule et pourquoi industrie?
Bien, parce que le docteur Monod, qui exerçait à Monsauge, s'est rendu compte au bout d'un certain moment que le village de Monsauge et les villages environnants se vidaient de leurs femmes. Donc, c'était la grande mode d'aller à Paris ou ailleurs, puisque les nourrices vont partout dans le monde, et il s'est inquiété de ce phénomène. Alors, le docteur Monod, c'est un peu délicat, parce que quand une nourrice voulait se placer à Paris ou ailleurs, il lui fallait le certificat de médecine du médecin de canton ou d'ailleurs, pour pouvoir se placer, comme quoi elle était en bonne santé, etc. Alors le docteur Monod, bien sûr, a signé des certificats pour faire partir des nourrices. Et au bout d'un moment, il s'est aperçu que dans sa commune et ailleurs, il y avait une mortalité infantile terrible, puisque le bébé Morvandio, du jour au lendemain, est privé de sa maman. On le passe au lait de vache ou au lait de chèvre, il attrape la diarrhée verte, et une fois sur deux, il meurt. Et puis, le docteur s'était aperçu aussi que certaines femmes ne revenaient pas. Quand on a goûté au château, aux hôtels particuliers, on n'a pas forcément envie de revenir en Morvan. Donc, avec un de ses collègues, le docteur Roussel, de Lozère, ils sont députés tous les deux, et ils vont créer une loi, donc la fameuse loi Roussel, qui va stipuler que les nourrices ne doivent pas partir de chez elles avant que leur propre enfant ait au moins 7 mois. Mais vous pensez bien que cette loi était détournée. On allait voir le docteur, on apportait un poulet, un lapin, je ne sais quoi, et le bon docteur signait le certificat. Donc double dialogue, parce que donc ces médecins s'inquiètent de ce phénomène, de cette industrie, c'est eux-mêmes qui vont trouver le terme. Et puis, la loi va arriver. Bon, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, c'est un petit peu difficile à traiter.
Pour information, donc, cette loi Roussel, elle date du 23 décembre 1874, pour être précis. Alors, les médecins se laissent effectivement corrompre. Et puis, les familles morvandelles ont besoin d'argent. Parce que finalement, ce que l'on constate, Noël Renaud, que ce soit en Italie, au Portugal ou en Espagne, les nourrices viennent essentiellement de régions ou de provinces pauvres.
Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je me suis attachée dans ce dernier ouvrage à aller voir un petit peu ailleurs. Pourquoi les nourrices du nord de l'Italie partaient, pourquoi les nourrices du nord de l'Espagne partaient. Donc c'est le même phénomène, des régions très pauvres comme le Morvan, et on n'avait que ce moyen-là pour gagner de l'argent. Les familles étaient souvent surpeuplées, donc il fallait trouver un moyen pour gagner cet argent, pour aider les familles à subsister d'abord. Donc quand une nourrice part, c'est ce qu'on appelle faire une nourriture, on part pour 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, bien sûr, on est obligé de céder la place à la nurse anglaise ou allemande, etc. Donc elles avaient trouvé ce moyen pour gagner de l'argent. Et elles gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc on aura une transformation économique dont on reparlera peut-être après.
Alors en France, les nourrices viennent essentiellement du Morvan, enfin les 4 départements de la Bourgogne, parce que le Morvan, c'est une désignation... géographique ou géologique, plus précisément, mais elles peuvent venir aussi de Bretagne ou d'Auvergne.
Oui, de Bretagne, d'Auvergne, de Normandie, d'Alsace, de Provence, de l'Ariège. Mais il y a eu une mode de la nounou du Morvan. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de documents, de photos, etc. Donc il y a eu une mode entre 1850 et 1920, la fin des nourrices. On voulait d'abord une morvandelle.
Et pourquoi donc étaient-elles si cotées ?
Alors, elles sont cotées parce qu'elles sont réputées pour leur beauté. Donc, dans les familles aristocratiques ou bourgeoises, on s'imaginait que si l'enfant ouvrait les yeux déjà sur une belle femme, ça pouvait le former à d'autres choses.
Mais alors, quels sont les critères de beauté à l'époque ?
Alors,
La peau très blanche, elle doit être brune, elle doit être blonde.
Non. On a un petit peu de tout. On a des femmes quand même qui sont assez typées, souvent de peau assez sombre. Mais bon, moi, je ne suis pas objective. Elles sont toutes belles. Elles sont belles, en plus, avec leurs costumes, etc. Donc, je ne suis pas très objective. Alors, elles partent donc parce qu'elles sont réputées pour la qualité de leur lait. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on a des textes très anciens qui stipulent que le lait de la femme celte est du lait supérieur. Alors les Bretonnes, bien sûr, avaient aussi du bon lait, mais la proximité de Paris va aussi jouer pour nous. Donc c'est pour ça qu'on va voir le Morvan se vider de ces femmes.
Alors comment les morvandelles sont-elles recrutées ? Elles ne vont pas sonner, frapper à la porte d'un manoir, d'un château, d'une famille aristocratique. Comment se passe le recrutement d'une nourrice du Morvan ou d'autres provinces ?
Alors, il y a 2 modes de recrutement. Donc, il y a déjà en place à Paris, principalement, des bureaux de placement. Et dans ces bureaux de placement, il y a des employés qu'on appelle des meneurs ou des meneuses. Et ces meneurs et meneuses vont sillonner le Morvan et se renseignent sur les femmes susceptibles d'accoucher dans les mois qui vont suivre. Donc, quand la morvandelle a accouché, on l'a fait monter à Paris, alors soit en diligence au départ, soit après par le coche d'eau de Lyon, soit par le train beaucoup plus tard. Et arrivées dans les bureaux de placement, là, elles sont parquées, alors elles se retrouvent avec les Bretonnes, les Alsaciennes, les Auvergnates, etc. Et c'est monsieur et le médecin de famille qui viennent au bureau de placement pour choisir une nourrice. Donc on examine sommairement la nourrice, on regarde sa poitrine, on goûte le lait avec une petite cuillère en argent. Est-ce qu'il est assez sucré ? Est-il de belle couleur ?
On goûte carrément
le lait ? Oui, on goûte le lait, oui. Et ben, l'affaire se fait ou pas. Donc la nounou se retrouve au château ou à l'hôtel particulier.
Alors pour une nourrice, notamment morvandelle, obtenir ce poste, c'est l'assurance pendant deux ans d'avoir un, un fort bon salaire.
Ah oui, tout à fait. Et alors, je reviens au recrutement. Il y a un autre mode de recrutement qui va apparaître par la suite. Une fois qu'une nourrice est en place dans un château, on se fréquente beaucoup de château en château. Et souvent, madame disait, ou monsieur, eh bien, nous avons nos cousins, nos voisins de tel château qui attendent un bébé. Et est-ce que vous ne connaîtriez pas dans votre village, dans votre famille, une nourrice susceptible de venir chez nous? Donc, les nourrices du Morvan vont faire venir qui? Une sœur, une belle-sœur, une cousine, etc. Donc, deux modes de recrutement.
Alors, vous l'avez dit, Noël Renaud, la nourrice appartient au personnel domestique, mais elle a une place privilégiée.
Tout à fait. Donc, on la choie beaucoup, il ne faut pas que son lait se tarisse, donc on va la surveiller. Par exemple, si elle reçoit du courrier, rarement, le courrier est censuré. Si jamais le Morvandio, le mari, annonçait des mauvaises nouvelles, donc on ne les apprend pas à la nounou, cela pourrait faire tourner son lait. Donc malheureusement, certaines nourrices n'apprendront par exemple la mort de leur propre enfant qu'après leur retour en Morvan. Donc des drames un petit peu particuliers.
Il faut faire preuve. Alors, ces femmes doivent faire preuve de bonne moralité. C'est aussi une séparation affective avec le mari, avec la famille, avec le bébé qu'on laisse, oui. Qu'on confie quoi à la belle-mère ou à
la belle-mère, ou à la propre maman, ou à une voisine, souvent quelqu'un de la famille.
Alors, c'est très difficile, Noël. Je pense qu'il y a peu de traces écrites de la plume même des nourrices,
eh ben,
des cartes postales, des lettres.
Ah oui, oui, quand même, parce que... Alors, il y a quand même quelque chose de positif, c'est qu'une fois que la nounou est au château, souvent, elle va bénéficier des cours des précepteurs. Souvent, madame dit, ben voilà ce que vous voulez apprendre à lire, à écrire. Donc, on a beaucoup de nourrices qui vont apprendre à lire et à écrire. Et ça, je pense que c'est le début aussi de l'émancipation. Et elles vont pouvoir mieux communiquer. Donc, on a vraiment des correspondances avec le mari Morvandio qui, lui, souvent fait écrire quelqu'un d'autre puisqu'il ne maîtrise pas toujours la lecture et l'écriture. On a quand même beaucoup de correspondances entre mari et femme.
Alors, parmi ces correspondances, Noël Renaud, de quoi est-il question?
Eh bien, évidemment, la nourrice se renseigne de son propre enfant. Qu'est-ce qu'il devient? Alors, comme je vous disais que le courrier est censuré, eh bien, on ne lui lit pas tout. Donc, elle ne sait pas tout. C'est terrible, c'est terrible.
Peut-on penser que les nourrices ont toujours été bien traitées dans les familles?
Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas de cas où elles aient été maltraitées. J'ai même un cas d'une nourrice qui était placée chez Rothschild, parce que les Rothschild ont employé beaucoup de nourrices du Morvan. Une nourrice dont le lait s'était tari, c'est très rare. Hein. Et on ne l'a pas renvoyée tout de suite. Elle est restée un petit peu de temps à l'hôtel particulier. Et elle est repartie avec 2 mois de gage en plus. Donc, mais c'est exceptionnel. Hein. Moi, j'ai répertorié en 40 ans 560 nourrices avec des documents. Et je n'en ai que 3 qui ne peuvent pas allaiter. Donc, celle dont je vous parlais, le lait va se tarir. Et 2 autres qui arrivent à Paris et le lait s'est tari. Alors, est-ce que c'était le chagrin de la séparation, le choc, etc. Donc, c'est exceptionnel.
Alors, il y a un aspect qui peut paraître un peu cocasse aussi, c'est que ces nourrices doivent faire preuve de chasteté. Et pourtant, dans les châteaux, elles sont taquinées,
oui,
courtisées par les jardiniers, les cochers, les valets de chambre, ou pourquoi pas même
monsieur. Oui, alors là, bien entendu, ce sont des histoires qui arrivent. Donc, j'en ai une dont j'avais retrouvé la photo, mais j'étais un petit peu sceptique parce qu'on voit cette nourrice qui est photographiée devant le Sphinx en Égypte, devant les pyramides. Alors elle est sur un chameau ou un dromadaire, je ne sais jamais. Elle n'est pas en tenue de nourrice, elle est en tenue de grande dame. Donc je m'étais quand même interrogée et j'ai appris par la suite que Benounou est partie avec monsieur.
Ah oui.
Voilà, donc ça, ce sont des histoires un petit peu
exceptionnelles
aussi.
Au niveau de l'habillement, on habille la nounou. Alors, il y a, ça vous l'avez montré dans de précédents ouvrages, les nourrices ont des coiffes à très longs rubans.
Rubans.
Donc, très identifiables finalement dans les rues à Paris ou dans les parcs.
Ah, tout à fait, tout à fait. Donc, le costume de la nourrice se compose bien sûr d'un caraco qu'on peut dégrafer facilement, une grande jupe, un grand tablier blanc, une cape très volumineuse qui sert à envelopper le bébé quand elle le promène dans le parc, s'il n'est pas dans le landau. Et puis, le signe distinctif, elles partent avec leur petite coiffe blanche du Morvan et par-dessus, on va leur mettre, quand elles sortent, ou quand elles sortent dans les squares ou qu'elles présentent bébé au salon devant des invités. Donc on a cette fameuse couronne de ruban, on appelle ça la couronne, avec des pans de ruban qui pendent jusqu'à terre. Et ces couronnes, ces rubans ont des couleurs particulières, elles représentent les couleurs des maisons. Vous savez que dans les châteaux, on a aussi beaucoup de chevaux, donc on fait des courses de chevaux, les jockeys ont aussi portent les couleurs des familles, et les rubans des nourrices sont aux couleurs des familles. Donc on savait dans un square, à la couleur des rubans, que telle famille était chez les Rothschild, chez les Intel.
Alors il y a un aspect qui me paraît essentiel, est-ce que ces nourrices ont été heureuses? Est-ce que les périodes de nourriture, comme on les appelle, sont une parenthèse de bonheur avant le retour dans le hameau ou dans la chaumière du Morvan, ou est-ce que ce fut une période de solitude dans une famille où socialement on n'a pas du tout les mêmes repères qu'à la campagne et dans une famille très modeste?
Et non, alors moi j'ai plusieurs témoignages, ces périodes-là ce sont les périodes les plus heureuses de leur vie. Bon, imaginez, on quitte le Morvan, la promiscuité, on vit avec le beau-père, la belle-mère, on a beaucoup d'enfants, les conditions d'hygiène sont déplorables, on n'a pas forcément toujours à manger.
Peu de confort.
Peu de confort. Donc, plusieurs nourrices m'ont dit que vraiment, ça avait été la période la plus heureuse de leur vie. Sur les 560, je n'en ai que deux qui éprouvent des regrets. Des regrets d'avoir quitté la famille, d'avoir quitté les enfants. Donc c'est quand même minime, c'est quand même minime. Et comme je disais tout à l'heure, certaines ne vont pas revenir. Quand on a goûté au château, aux hôtels particuliers, au voyage, au luxe, elles ne reviennent pas.
D'ailleurs, dans un de vos précédents ouvrages, Noël Renaud, vous parlez de Jeanne Ménétré, qui a passé 60 ans au service d'une famille et qui a été inhumée en 52 dans le caveau de cette famille.
Oui, et ça n'est pas un cas isolé. J'ai plusieurs nourrices qui sont inhumées dans les caveaux de famille. Alors bien sûr, quand la période de nourriture est terminée, elles restent au château, elles deviennent nourrices sèches, elles n'allaitent plus, mais elles vont devenir gouvernantes. Et j'ai plusieurs exemples de familles qui gardent ces nourrices devenues gouvernantes jusqu'à la fin de leur vie.
Et qui deviennent un peu membres de la famille.
Tout à fait. Tout
qui sont presque, qui ont un statut
oui.
presque de membre de la famille,
voilà, oui.
avec dans un lien de confiance, d'affection,
d'affection
aussi, réciproque.
Oui. Parce que bien sûr, elles vont beaucoup s'attacher aux enfants qu'elles ont nourris, ça c'est extraordinaire. Bon, et on a aussi les nourrices qui reviennent, heureusement il y en a beaucoup qui reviennent, et souvent les familles qui les ont accueillies à Paris ou ailleurs viennent les voir en Morvan.
Alors, d'accord.
Souvent ça arrive, donc on a une nourrice de Montsauge par exemple, qui avait un caractère un petit peu particulier, qui était placé chez les Miramont Fitz-James. Et tous les ans, la famille de Miramont revenait à Montsauge et emmenait toute la famille de la nourrice au lac des Sétons, au restaurant. Et il paraît que tous les ans, Monsieur le Baron disait « Alors Nounou, toujours aussi emporté ?» Et Nounou avait répondu « Ben oui, Monsieur le Baron, je suis né comme ça, je mourrai comme ça. » Donc, vous voyez, un caractère quand même. Et cette nounou était très, très belle.
Ce qui est original, c'est aussi lorsque la nourrice arrive du Morvan dans ces grandes familles aristocratiques ou de la très haute bourgeoisie. Finalement, ce sont deux mondes socialement qui se rencontrent. C'est...
Oui, alors là, je m'interroge beaucoup aussi parce que je sais que la nourrice arrive au château avec ses pauvres habits, elle arrive en sabots Et comment, du jour au lendemain, bon, vous avez vu les photos, ce sont quand même des belles femmes, le costume y est pour quelque chose, mais comment, du jour au lendemain, on peut s'adapter à ce mode de vie, ce nouveau mode de vie, je trouve ça extraordinaire. Alors, est-ce qu'on leur donnait des cours de maintien ça, je ne sais pas. Mais bon, vous savez qu'elles vont voyager, elles vont voir la mer, l'océan, elles vont apprendre des langues étrangères. Donc j'ai des nourrices qui reviennent, elles parlent espagnol, anglais, puisqu'elles voyagent avec toutes ces familles. Donc est-ce qu'il y avait aussi une faculté d'adaptation de la Morvandelle ? Je pense.
Est-ce que les Morvandelles avaient droit à des cours d'élocution ? Parce que j'imagine que la Morvandelle ne devait pas parler un français, évidemment. Qui était le français utilisé par les gens de la grande aristocratie.
Oui, je pense qu'on devait quand même leur donner des cours, puisqu'elles bénéficient aussi des cours des précepteurs. Et on le voit dans les correspondances. Ces femmes-là maîtrisent après l'écriture. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et elles racontent tout ce qu'elles ont vu, les voyages qu'elles font, etc.
Alors, elles ont été très nombreuses lors de la Belle Époque. Vous l'avez dit précédemment, Noël Renaud, le phénomène des nourrices s'interrompt dans les années 20.
Oui.
Alors, il y a une prise de conscience de quelque chose. Pourquoi cette industrie des nourrices, je reprends l'expression du docteur Monod, pourquoi cette industrie s'arrête-t-elle ?
Alors, 1920, c'est à peu près la fin. Bon, on en retrouve encore quelques-unes entre 1920 et 1930, mais la guerre de 14 est passée par là, donc on n'aura plus les moyens non plus dans les châteaux d'entretenir, par exemple, au château de Chaumont, chez les Debreuil, il y avait à peu près entre 30 et 40 domestiques. Donc, cochers, jardiniers, femmes de chambre, valets de chambre, cuisiniers, cuisinières et nourrices. Donc ça va déjà, les fortunes vont diminuer. Et puis les médecins vont essayer de convaincre toutes ces dames de la bonne société que ce serait mieux qu'elles allaitent elles-mêmes leur bébé. Alors pourquoi elles n'allaitaient pas ces femmes ? Pour ne pas abîmer leur poitrine, on se fréquentait beaucoup de château en château. On n'avait pas envie de s'occuper de tous ces enfants. Donc c'était tout à fait logique d'avoir une nourrice et puis c'était formidable. Donc voilà.
Noël Renaud, merci pour toutes ces explications. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Nourrices, Nurses et Gouvernantes, c'est aux éditions Sutton. Nous marquons une dernière pause musicale. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à midi et on se retrouve juste après cette petite virgule musicale.
Elle tombe, je la retiens dans mes bras. Tout se joue en quelques secondes. Je plonge, elle fait son cinéma. Et moi je joue mon meilleur rôle. Et je sais que cette fille n'est pas faite pour moi. Comment je vais me sortir de là? À mon tour je tombe dans ses bras. Elle sait comment y faire, elle mène la danse. Et moi je ne suis qu'un homme à la mer quand elle se penche. Qu'un jeu, et moi je la perds à chaque fois qu'elle se tourne vers un autre jeu. Moi je suis amoureux d'elle, je n'ai Dieu que pour elle. Ce n'est qu'un jeu, et moi je la perds à chaque fois qu'elle se tourne vers un autre jeu. Moi je suis amoureux d'elle et j'en ai jamais assez. Jamais assez de l'enlacer, jamais assez. Jamais assez. Je m'en veux, elle ne reviendra pas. Même si je fais le tour du monde, pour ses beaux yeux dénués de larmes, comme deux étrangers qui se frôlent. Et je sais que cette vie n'est pas faite pour moi. Comment je vais la sortir de là? Cette histoire qui n'en finit pas. Elle sait comment y faire, elle mène la danse. Et moi je ne suis qu'un homme à la mer quand elle se penche. Moi je la perds à chaque fois qu'elle se tourne vers un autre jeu. Moi je suis amoureux d'elle, je n'ai Dieu que pour elle. Ce n'est qu'un jeu. Et moi je la perds à chaque fois qu'elle se tourne vers un autre jeu. Moi je suis amoureux d'elle et j'en ai jamais assez. Jamais assez de l'enlacer. Jamais assez. Jamais assez. Jamais assez de l'enlacer.
jeu, et moi je la perds à chaque fois qu'elle se tourne vers un autre jeu. Moi je suis amoureux d'elle, je n'ai Dieu que pour elle. Ce n'est qu'un jeu, et moi je la perds à chaque fois qu'elle se tourne vers un autre jeu. Moi je suis amoureux d'elle et j'en ai jamais assez. Jamais assez de l'enlacer, 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 jamais assez. Jamais assez de l'enlacer.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Noël Renaud qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre pour son dernier ouvrage intitulé « Nourrices, nurses et gouvernantes » que l'on peut se procurer en librairie aux éditions Sutton. Il y a dans ce septième livre sous votre plume, Noël, il est question d'histoire lactée. Alors, vous vous êtes intéressé à l'histoire de l'allaitement dans d'autres livres. Quand apparaît le biberon, l'objet, le biberon ?
Un petit peu avant 1900. Mais le biberon va mettre un moment quand même à se généraliser. Et puis, il y a quand même beaucoup de problèmes au départ. Les biberons sont mal nettoyés. Et donc, là aussi, on a une mortalité infantile. Donc, ça va... Il va y avoir quand même un délai pour mettre au point ces biberons.
Alors, vous avez reproduit dans votre livre deux textes concernant l'allaitement et concernant effectivement la qualité du lait des nourrices. Il y a un texte de Théophile Gautier, extrait de Voyage en Espagne qui date de 1840. Et puis, il y a une nouvelle de Guy de Maupassant intitulée Idylle qui a été publiée dans Gil Blas en 1884. Alors, bien sûr, j'encourage chacune et chacun à lire ces deux textes, mais Théophile Gautier raconte une anecdote absolument surprenante de ce qu'il voit en Espagne à ce moment-là.
Oui, alors...
Il voit une nourrice qui a dans un panier un petit être qui bouge.
Oui.
Je vous laisse nous en parler,
Noël. Oui. Alors là, c'est surtout les nourrices de Cantabrie qui avaient développé ce phénomène. Quand elles allaient se placer à la cour d'Espagne, par exemple, que le voyage était quand même assez long. Et donc, elles avaient trouvé ce moyen pour ne pas faire tarir leur lait. Donc, c'est un petit animal qui va téter la nourrice. Mais on retrouve ça dans d'autres pays aussi. Mais c'est surprenant.
C'est un petit chien.
C'est un petit chien.
Et alors, dans la nouvelle de Guy de Maupassant, alors là, c'est formidable. Ça se passe dans un... Alors, l'émission, c'est wagon-livre, mais
oui,
la nouvelle
dans un
de
train.
Guy, ça se passe dans un train.
Oui.
Il y a donc une nourrice avec une poitrine...
Généreuse.
Généreuse, voilà. Et en face se trouve
un
beau jeune homme.
Voilà.
Et là aussi, il y a un échange absolument savoureux.
Oui, alors je ne sais pas s'il faut en parler pour ne pas trop dévoiler, mais ce jeune homme a faim et la nourrice va lui donner à manger. Donc voilà, à découvrir.
Est-ce que les femmes étaient moins pudiques par rapport à leur poitrine ? Est-ce qu'on pouvait donner le sein plus facilement en public qu'aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça paraît plus déraisonnable.
Oui, moi je pense que...
Je m'adresse aussi à Noël en tant que femme et maman.
Oui, moi aussi j'ai allaité. Hein. J'ai eu 6 enfants, donc j'en ai allaité 3. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'y avait pas cette pudeur qu'il y a aujourd'hui. On voit beaucoup de tableaux, de photos, la femme allaite, ça paraissait naturel.
Oui.
Qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on voit que les jeunes femmes qui allaitent se cachent plutôt pour allaiter. Je ne vois pas pourquoi, mais oui, il y a cette pudeur quand même.
Vous expliquez que dans L'Assiette au beurre, qui était un journal satirique en 1907, il y a un dessin où il y a deux femmes qui sont dans un parc, une qui montre un peu sa poitrine pour aguicher des hommes, et puis il y a une nourrice qui, effectivement, ouvre son corsage et qui donne le sein et qui allaite donc l'enfant dont elle a la charge. Et un policier passe, il interpelle la femme qui, finalement, essaie d'attirer des hommes, Et la femme lui dit, bah oui, mais regardez à côté cette nourrice qui monte ses seins et qui allait le bébé. Et alors, il y a la légende de ce dessin où le policier dit à la, on va dire à la prostituée, puisque c'est une femme de petite vertu, il lui dit, vous, c'est des nichons, elle, c'est des mamelles.
Eh oui. Oui, ben voilà, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même extraordinaire. Mais il y avait quand même ce respect de la nounou. Et on revient toujours à ce personnage très important.
Alors,
très
respect important. Au sein de la famille, mais même dans la société.
Eh oui.
Tout le monde
oui,
respectait
oui.
la nourrice.
Oui, tout à fait.
Et finalement, on peut considérer que lorsque cesse, alors j'utilise encore cette industrie des nourrices, on peut considérer que ça a à nouveau apporté un peu de pauvreté aussi dans le Morvan. C'était un statut professionnel, c'était nourrice.
Oui, c'était un statut, mais ça n'amène pas la pauvreté dans le Morvan.
Je veux dire, en fait, le statut de nourrice permettait de ramener un peu d'argent dans les familles. À partir du moment, dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, où cesse ça, le recrutement, on peut considérer que c'était, disons, une offre d'emploi qui n'était plus valable.
Eh ben voilà, oui, exactement. Mais je voudrais quand même revenir sur le fait qu'elle gagnait beaucoup d'argent. Donc, première nourriture, l'argent qu'elle ramène ou qu'elle envoie en Morvan va servir d'abord à la famille à subsister, puisqu'on est quand même très pauvre. La deuxième nourriture, on a goûté au château, aux hôtels particuliers. Donc là, elles vont faire rénover les maisons. On va faire carreler le sol de terre battue, on va surélever les toits de chaume vont disparaître, on va faire mettre des ardoises ou des tuiles, on va agrandir aussi les ouvertures pour avoir plus de lumière. Troisième nourriture, on va essayer d'acheter une ou deux vaches, une paire de bœufs. Quatrième nourriture, on va acheter plus de terre pour pouvoir plus cultiver. Donc on a une transformation économique du Morvan extraordinaire. Alors, bon, ça ne va pas s'arrêter d'un seul coup, cet apport d'argent, parce que les femmes partent nourrices, mais n'oubliez pas que les hommes partent pour faire le galvaché. Alors, le galvaché, lui aussi, il gagne de l'argent. Il gagne trois fois moins que la nourrice, mais les galvachés, ça va durer encore pas mal d'années après. Donc, on aura encore cet apport d'argent.
Alors, Noël, peut-être n'est-il pas superflu ? Bon, les Bourguignons savent peut-être qu'est la galvache, mais pensons à nos auditeurs qui nous écoutent aux quatre coins de France.
Alors donc, les femmes partaient nourrices, mais les hommes partaient également. Ils partaient en général au printemps. Ils allaient se louer dans d'autres régions de France avec leurs bœufs ou leurs vaches pour transporter des pierres, du bois, etc. Mais le galvaché, normalement, lui revenait à l'automne.
Bien Noël, merci pour ces précisions. Nourrice, nurse et gouvernante, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Je rappelle, c'est le 7e, 40 ans de travail sur le thème des nourrices. Vous êtes la grande spécialiste des nourrices du Morvan ?
Je ne sais pas. Mais...
Il y a eu des articles dans la presse nationale parfois sur vous.
Oui, bien sûr. Plusieurs émissions à la télévision. Oui, c'est un phénomène qui plaît. On touche à la maternité, à la femme. Et ben, le collectage continue, puisque la semaine dernière, j'en ai encore retrouvé 6. Donc je suis toujours stupéfaite de voir que les gens du Morvan, et d'ailleurs, ont bien conservé ces traces des nounous. Et je pense qu'on leur doit de restituer à la population du Morvan et d'ailleurs toute l'histoire de ces femmes.
Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque une nouvelle pause musicale et nous nous retrouvons avec notre invité Noël Renaud.
Allumons à feu avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux. Brûlons tout ça, réduisons en cendres les blessures. Réduisons ensemble nos fractures, et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras, un feu de joie.
casser les bûches, les reproches crétins, leurs minables embûches crameront bien. Feu d'artifice, si l'on jette dedans amitié factice, amour décevant. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Un feu de joie. Comme s'enflamme ce qui nous consommait, soyons pyromanes des entraves qu'on avait. Nos regrets, des étincelles, chagrin follet, crépite au ciel, remords stériles, enfumés, l'inutile dans le brasier. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras, feu de joie.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Noël Renaud, dans Nourrice, Nurse et Gouvernante, votre dernier ouvrage disponible aux éditions Sutton, vous parlez, et ça me paraît essentiel, de l'émancipation de la Morvandelle. Alors, vous expliquez que effectivement, elles vont, vous l'avez dit précédemment, améliorer vraisemblablement leur connaissance de la langue, apprendre des langues étrangères, bénéficier aussi de notions d'hygiène élémentaire, ça c'est important. Elles vont voyager aussi, c'est-à-dire qu'il faut imaginer, pour les plus chanceuses, qui n'avaient connu que les champs et les villages du Morvan, découvrir des stations balnéaires ou partir à l'étranger des paquebots. Ça, c'est magnifique.
Oui, ça, c'est extraordinaire. Imaginez les histoires qu'elles vont avoir à raconter quand elles reviennent en Morvan. Donc, la plus célèbre, c'est la nourrice Bonnereau de La Roche-Millet, qui est placée à Paris. Et monsieur va être nommé au Pérou comme ambassadeur, et donc la nounou va voyager avec cette famille, donc de Paris à Bordeaux. À Bordeaux, c'est avant 1900, on prend un bateau et on va traverser l'Atlantique et on va contourner la pointe de l'Amérique du Sud, puisque le canal de Panama n'est pas ouvert à l'époque. Et le bateau a une avarie et tout le monde débarque à Ushuaïa. Et à Ushuaïa, tout le monde se retrouve à dos d'âne ou à dos de cheval pour aller jusqu'à la côte du Chili et là reprendre un autre bateau qui va les emmener au Pérou. Alors cette nourrice est revenue en Morvan quelques années après et elle a raconté à ses enfants ce périple. Ça avait duré 2-3 mois. Et un de ses fils me racontait « Si j'ai eu l'amour de la géographie, c'est grâce à maman qui lui avait raconté ses voyages ». Alors, on en a qui vont en Angleterre, qui vont aux États-Unis, qui vont bien sûr en Espagne, au Portugal, en Italie. Alors, il y a les nourrices portugaises, espagnoles aussi, qui viennent un petit peu en France, mais moins. Donc, elles vont découvrir la mer aussi, les stations balnéaires. Il y en a une qui écrit à sa famille, elle est à Trouville, nous sommes ici depuis quelques jours, j'ai pris déjà 2 bains et n'ont jamais vu la mer. Donc c'est... Et alors une autre qui va en Angleterre, donc on prend le bateau, pareil, avant 1900, et elle est très malade sur le bateau. Donc elle fait son séjour en Angleterre, elle est dans une famille anglaise, et un jour, madame lui dit, nous allons rentrer à Paris, nounou. Et Nounou lui dit, ah oui, je veux bien, mais alors pas par le bateau. Alors il n'y avait pas tellement de choix. Hein.
Noël, vous avez essentiellement écrit des essais, des livres documentaires sur le thème des nourrices. Vous n'avez jamais songé à écrire un roman, à vous glisser dans la peau d'une nourrice et d'essayer de restituer les sensations, les émotions d'une nourrice dans une grande famille aristocratique? Ça vous semble compliqué?
Non, pas du tout, mais d'autres l'ont fait pour moi. Donc Philippe Berthelangereau lui a écrit un roman qui s'appelle La nourrice et il s'est inspiré un petit peu de mes recherches. Alors, donc c'est fait.
Voilà,
c'est
fait. Philippe Berthelangereau qui est votre mari.
Voilà. Voilà.
Je voudrais justement qu'on évoque l'attachement des employeurs à leur nourrice et vice-versa. Et lire, vous reproduisez ce qu'écrit la baronne Staff au sujet de nourrice et les conseils qu'elle prodigue. Je trouve très beau ce texte. Soyez généreuse à l'égard de la nourrice. N'oubliez pas qu'elle infuse la vie matérielle à l'enfant de votre chair. À la première dent, faites-lui un beau cadeau et saisissez toutes les occasions à gratification et présent. Parfois la tâche vous sera facile, la femme sera bonne et reconnaissante. Alors, aimez-la. N'a-t-elle pas été obligée par le besoin, cette pauvre créature, de sevrer son propre enfant pour tout donner au vôtre ? Il en est qui se reproche cet abandon forcé comme un crime. Ah, comme il faut les consoler. Inspirez à votre enfant tendresse et gratitude pour celle qui l'a nourri. Faites taire une jalousie injuste, odieuse. Si vous gardez la nourrice en votre maison, quelle est la première place parmi les serviteurs? Si elle s'éloigne, ne rompez pas toute relation avec elle. Vous l'avez payée, dites-vous. Vous lui devez toujours beaucoup. Un très beau texte, oui. Respectueux
tout à fait, tout
de
à
la
fait.
Part de la baronne, oui. Staff.
Et il y avait un écrivain bourguignon, que je ne citerai pas, qui avait écrit dans un de ses ouvrages qu'on ne gardait aucune relation avec la nounou. Alors ça, je peux vous dire que c'est faux. Moi, j'ai retrouvé une correspondance entre la famille d'accueil et la nounou, et une correspondance qui a duré 50 ans.
Et puis, il y a alors les fameux certificats, oui, de travail, hein, voilà, qui sont élogieux. J'en lis un, là, c'est celui qui concerne Marie-Louise Boursin. Je sous-signais donc Madame Marcel Bloch, certifiée avoir eu à mon service en qualité de nourrice Madame Marie-Louise Auribeau depuis le 15 mars 1937 à ce jour. Et pendant ce temps, je n'ai eu qu'à me louer de ses services, de son honnêteté et de son dévouement envers mes enfants. Je m'en sépare, mes enfants étant assez grands pour ne plus avoir besoin de nounou. Oui. Et puis, il y a aussi des familles qui apprennent la mort d'une nounou et qui écrivent justement, oui, à la, oui, famille. Par, oui, exemple, cette lettre, c'est la comtesse Georges de Boisgelin qui envoie ses condoléances à la famille donc, d'une nourrice, Marie-Louise. Je viens d'apprendre, alors courrier qui date du 19 avril 1969.
Hein. Oui.
Je viens d'apprendre, ayant été absente, mes chers amis, la mort de notre chère nounou, et suis bien attristée. Je pense beaucoup à votre chagrin et à celui de vos enfants. Elle vous aimait tant. Je ne peux oublier le si beau dévouement qu'elle a témoigné avec ma petite Béatrice. Croyez, mes chers amis, à toute ma grande sympathie dans votre chagrin et à mes prières pour la chair disparue. Il y a effectivement,
oui,
un lien très fort.
Tout à fait, oui, oui.
Les employeurs donc rendent parfois visite aux nounous, oui, en province. Et alors Noël, vous avez mis en un cas particulier, c'est celui de cet Israélite, Jean Drier,
oui,
qui est recherché pendant l'occupation par la Gestapo,
oui,
et qui va se réfugier chez sa nounou.
Oui,
c'est incroyable.
Voilà, à Saint-Martin-du-Puy. Donc on avait gardé des liens, bien sûr, avec la nourrice. Et comme il est recherché, il va venir se réfugier à Saint-Martin. Et pendant plusieurs mois, il va même prendre le nom de la nourrice. Il va s'appeler Bachelin pendant plusieurs mois pour échapper aux Allemands. C'est quand même extraordinaire. Hein, c'est extraordinaire.
Alors, il y a un délicieux chapitre qui est consacré, Nounou et Piu-Piu, un couple, oui, idéal à la belle époque. Alors, le Piu-Piu, bon, c'est une onomatopée,
oui,
enfantine qui imite un peu le cri des poussins, hein, piou, piou,
oui,
piou, piou, piou,
oui.
Et puis le piou piou,
c'est le soldat,
hein,
soldat,
on,
oui,
on utilise ça de 1830 à 1914, oui, vous nous expliquez. Alors c'est un prédateur en goguette, en fait,
ah, oui,
entre guillemets.
Mais imaginez toutes ces belles jeunes femmes morvandelles, bretonnes, etc., dans les squares avec leurs beaux costumes. Donc c'est vrai que là, on a des nuées de soldats qui tournicotent autour des nounous. Alors, il y a aussi des nounous qui sont filles-mères. Elles ne sont pas toutes mariées. Donc, souvent, elles vont rencontrer leur futur mari au square, etc. On a plusieurs histoires comme ça. Mais là, j'ai été beaucoup aidée par le docteur Perroux, qui, lui, s'était beaucoup attaché à étudier la relation entre les militaires et les nourrices. Donc, c'est lui qui m'a beaucoup aidée pour ce chapitre.
Alors, aujourd'hui, sont reproduites
beaucoup
des,
de caricatures,
des illustrations, des caricatures. Mmh. Aujourd'hui, les ligues féministes n'apprécieraient pas ce
certainement
genre de dessin.
Pas. Non, certainement pas.
Et pourtant, c'est drôle.
Oui. Oui, oui, mais on a vraiment une iconographie extraordinaire entre les soldats et les nounous.
Alors, vous avez dit précédemment, Noël, que vous aviez retrouvé six nourrices. Vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin de vos jours à chercher des nourrices ?
Écoutez, je pense, parce que je sais que le sujet plaît, le sujet accroche vraiment les gens. Donc... quand je retrouve des photos quand même extraordinaires et des anecdotes, eh bien, je continue.
Et jamais de lassitude sur ce thème des nourrices ?
Non.
40
non.
ans de passion et oui. de déplacement des kilomètres et des kilomètres.
Ah ben oui, évidemment, parce que quand je trouve une nourrice en Morvan, souvent ce qu'on m'explique, ce qu'on me raconte est vrai, mais je suis obligée de vérifier auprès des descendants des nourrissons allaités, quand il y a des descendants. Donc je travaille beaucoup avec le bottin mondain. Je prends le chef de famille et j'écris pour voir si eux, ils ont des souvenirs de cette nounou, s'ils ont d'autres documents, d'autres photos, etc. Et là aussi, ce sont des gens extraordinaires qui ouvrent leurs albums, leurs châteaux. C'est merveilleux.
Quel sera le thème du prochain livre ?
Alors le thème, là je suis en train d'engranger d'autres nouvelles nourrices. J'espère retrouver des anecdotes un peu particulières. Mais bon, je me suis un petit peu diversifiée il y a quelques temps. Je me suis plongée un petit peu dans les maquis du Morvan. Donc un ouvrage sur le maquis Bernard, un ouvrage sur le maquis Serge. Voilà, puis peut-être un roman, mais pas forcément l'histoire d'une nourrice.
Bien. En tout cas, en librairie actuellement aux éditions Sutton, nourrice, nurse et gouvernante. Vous êtes aussi présidente de l'association Nourrice du Morvan.
Oui.
Alors un petit mot aussi sur le musée des nourrices à Aligny en
Morvan. Bien sûr que je vous conseille d'aller visiter, qui est vraiment très extraordinaire. Donc, mais qui parle des nourrices du Morvan, donc celles qui partaient à Paris ou ailleurs. Mais il y a une section très importante sur les enfants de l'assistance publique. Alors là, c'est très très bien expliqué, mais là, ce n'est pas du tout mon sujet.
Mais il faut dire aussi que d'anciennes nounous sont devenues un peu des mamans d'adoption pour des enfants de l'assistance
publique. Oui, très
souvent.
Voilà, quand elles reviennent en Morvan, elles vont souvent prendre des enfants de l'assistance publique.
Merci Noël Renaud d'avoir été à bord de Wagon Livre. C'est la dernière émission de la saison, puisque nous allons prendre des vacances en juillet et en août. Et nous reviendrons avec Wagon Livre le 5 septembre 2020 à 11h sur Radion. Et puis, gros événement maintenu en dépit de la crise sanitaire. Et espérons qu'il ne sera pas annulé. C'est le salon du livre Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot, en Côte d'Or, entre Beaune et Dijon, qui aura lieu le dernier week-end de septembre. Voilà, Evelyne Philippe a confirmé que le salon avait bien lieu. Et voilà, c'est un bel événement. Encore merci Noël, bel été à vous.
Merci.
Et puis nourrice, nurse et gouvernante aux éditions Sutton. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouvez sur notre site www.yannickpetit.fr. Bel été à toutes et à tous, bonne lecture et rendez-vous le 5 septembre, toujours sur Radion. Au revoir.